sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la séance qui s'est déroulée sous la coupole le 7 octobre 2008, sous le patronage et en présence du président de la République, Nicolas Sarkozy. Vous entendrez successivement le juriste François Théré de l'Académie des sciences morales et politiques et Pierre Mazaud, son confrère, membre de l'Académie et membre du Conseil constitutionnel, et le discours du président de la République.
Mesdames et messieurs les ministres, mes chers confrères, mesdames et messieurs, le président de l'Académie des sciences morales, le chancelier de l'Institut et le secrétaire perpétuel de notre Académie vont accueillir le président de la République. Ils nous rejoindront et quand ils nous auront rejoints, la séance commencera. Je vous prie de vous asseoir.
Monsieur le Président, notre pays traverse une crise profonde où se manifeste une fois de plus les relations tumultueuses du droit et de l'économie. Nous vous remercions d'avoir pris du temps pour venir vous exprimer devant l'Académie des sciences morales et politiques. Notre séance d'aujourd'hui a été quelque peu bouleversée en raison du décès de notre confrère Jean Foyer. Jean Foyer qui, dans toute sa carrière, a dominé tous ses contemporains par son intelligence, sa probité intellectuelle, son désintéressement et son courage. Il aurait beaucoup mieux que moi aujourd'hui pu vous exprimer sa gratitude puisque lui-même a été un peu à l'origine de notre séance de commémoration de la Ve République. Il avait été d'ailleurs à l'origine d'un certain nombre de travaux, et comme il était soucieux de ne pas cultiver la nostalgie, il avait, bien que certaines formules n'aient pas pleinement satisfait son intelligence du réel et ses visions de l'Académie, il nous avait quand même, à Pierre Mazaud et à moi-même, nous entretenant de cette séance et la préparant brièvement à votre intention, il nous avait développé un certain nombre d'idées et qui manifestaient à quel point il prenait en état de choses les réformes successives de la Constitution. L'une d'elles, d'ailleurs, qui n'avait pas été pratiquée par la voie de réforme formelle de la législation constitutionnelle, était la cohabitation, mais ce n'est pas la seule qui était intervenue et il était conscient de la possibilité des deux lectures de la charte constitutionnelle. Et puis, comme il avait été un peu un des artisans du parlementarisme rationalisé, il y avait peut-être chez lui quelques chagrins, mais un chagrin qu'il nous avait bien montré en le surmontant jeudi dernier. Et au fond, il venait nous dire que ce parlementarisme rationalisé, la France n'en aurait pas eu besoin si, en 1958, pratiquant une réforme à l'image du droit anglais et de la sagesse de la démocratie anglaise, la France avait adopté le scrutin d'arrondissement uninominal à un tour. Formule qui avait évidemment inquiété beaucoup de politique, mais qui s'expliquait aisément par le souci de dépasser les mésaventures ponctuelles des changements de constitution. Et c'est donc en son absence qu'aujourd'hui, sans prétendre exprimer un éloge quelconque qui viendra autrement sous la forme d'une notice de notre Académie, je voudrais quand même rappeler une chose. Tout d'abord, deux remarques plutôt qui me paraissent s'imposer. Il y a quelques semaines, le Très-Saint-Père est venu dans ces lieux vous précédant et nous accompagnons toujours tous pour exprimer son appartenance à notre académie. Et il faut dire que le nom de Jean Foyer intervient encore, puisque c'est sous son influence et par son intercession, si l'on peut dire, que le cardinal Ratzinger avait été accueilli par les nôtres en 1992. Voilà donc quelques éléments, et c'est aussi à partir de là que je me permettrai d'évoquer l'importance de votre présence parmi nous. Elle est importante parce que souvent, dans l'opinion, il y a 5 académies, mais c'est plutôt de l'une d'entre elles qu'il est question. Et comme il n'y a aucune rivalité, comme le chancelier de notre institut, mais comme vous aussi, le protecteur, non seulement de l'institut, mais des diverses académies, est là pour nous soutenir dans l'exercice de nos administrations libres les unes et les autres, il eût été assez curieux que le protecteur de l'académie ne puisse pas s'exprimer devant elle. Et s'il est arrivé que devant d'autres académies, il s'exprima, c'est la première fois, aujourd'hui même, que le président de la République prend la parole devant l'Académie des sciences morales et politiques. Une académie qui a eu quelques difficultés dans l'existence, puisqu'on lui reprocha à un certain moment de provoquer la réunion d'idéologues, mais en 1832, elle fut rétablie, et c'est pourquoi le protecteur de l'Académie est à sa place aujourd'hui. Et il faut bien reconnaître qu'il y aurait quelques paradoxes à ce que ce protecteur, dont les fonctions ne sont pas définies par des textes, sauf quand il s'agit des incapables et des consommateurs. Mais nous sommes peut-être ici des consommateurs de l'esprit que votre venue permet aujourd'hui de protéger à l'infini. Si je veux retenir un instant votre attention, c'est pour vous dire que notre académie et surtout la communauté des juristes qui est ici se réjouit. On dit souvent que les juristes, les non-juristes vivent comme si le droit n'existait pas, que les gens heureux vivent comme si le droit n'existait pas. Eh bien, pour une fois, il y a un démenti aujourd'hui. La communauté des juristes est heureuse et elle tient à vous exprimer sa reconnaissance. Une reconnaissance par votre présence, mais pas seulement par votre discours que nous attendons, car la présence d'un président de la République, elle a été assurée en 1964 par le général de Gaulle, qui, là où vous êtes, avait accompagné l'arrivée dans nos murs, dans notre église, du chancelier Adenauer, et puis ensuite du président François Mitterrand, qui avait accueilli en 1987 le roi d'Espagne, et en 1990 Monsieur Pérez de Cuellar, que nous voyons ici siéger parmi nos membres associés de l'Académie. Voilà donc qui explique votre présence et qui nous permet alors d'en terminer en disant que cette année 2008 a été pour le droit une bonne année, ce fut une bonne cuvée. Et l'on peut dire qu'elle l'a été d'abord grâce à certains événements, à notamment la réforme et les réformes qui ont permis à l'Académie d'exprimer son avis et de l'exprimer en toute liberté, et aussi à la participation et des travaux très remarquables de la Direction des Affaires Civiles sur la réforme des contrats. Et puis est arrivé un moment où a été créé, fait unique dans l'histoire, un prix Nobel de droit, disons un prix Onassis de droit, pour lequel je tiens à dire que l'influence et le rôle de la fondation Aristote Onassis, dont je salue la présence en la personne de son président, M. Antonis Papadimitriou, honore ce jour même où deux prix Nobel de médecine sont attribués à la France. Un prix Onassis de droit qui devrait être décidé, distribué à la fin de l'année nous permet aussi de considérer que cette année a été une année faste. Et une année faste, justement, parce que ce prix de droit est un prix qui honore les avocats, et les avocats dont la lignée célèbre dans nos républiques successives, depuis Grévy, Loubet, Falière, Poincaré, Doumergue, Coty, Auriol, trouvons-nous son représentant illustre à notre époque. Et alors, puisqu'il en est ainsi, puisqu'il est bon que je me taise, je voudrais quand même évoquer cette question immémoriale qui traverse et qui hante l'aventure politique des hommes. L'alternative, ou plutôt l'interrogation cruciale, faut-il choisir de bons gouvernants ou faut-il choisir et soumettre les gouvernants à de bonnes règles de conduite? En fait, il faut répondre à cette question à l'image de ce que toute la pensée antique et les Grecs, que j'honore à nouveau au passage, ont légué à l'aventure des hommes. À vous de répondre, peut-être, les uns et les autres. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Pierre Bazot, ancien ministre, ancien président de la Commission des lois, ancien membre du cabinet de Jean Foyer avec Marie-France Garot et moi-même, artisan de cette rencontre aujourd'hui, a la parole.
Monsieur le Président de la République, 50 ans, un anniversaire, celui de la Constitution de 1958, anniversaire hélas endeuillé par la disparition de notre ami Jean Foyer. Texte révolutionnaire contre des régimes qui sombraient dans la déchéance, loi fondamentale qui résista aux difficultés de notre histoire de ce dernier demi-siècle. Cette Constitution, voulue par le général de Gaulle, c'est Michel Debré, notre ancien confrère, qui en fut l'architecte. Il est des destins qui se rencontrent, tels furent ceux de ces deux hommes qui, épris des mêmes principes, donnèrent à la France ses nouvelles institutions. Même rejet de la Troisième République, impuissante, même rejet du régime exclusif des partis, même attachement passionné pour la France, pour la République, pour l'État, le tout exprimé d'ailleurs à la même époque, par De Gaulle à l'Albert Hall à Londres devant les Français libres, par Debré dans ce petit ouvrage « Refaire la France » écrit pendant l'occupation. Peut-être les deux hommes s'étaient-ils côtoyés avant la guerre dans l'entourage de Paul Reynaud, mais c'est le 22 août 1944 que M. Jacquier, nom de Debré dans la Résistance, commissaire de la République de la région d'Angers, recevait à la préfecture de la Mayenne le président du gouvernement provisoire de la République française. De ce jour, ces deux personnages hors du commun ne se quittèrent plus. S'il n'avait démissionné en 1946, j'ai fait au moins une erreur politique dans ma vie, mon départ en janvier, dira De Gaulle à son neveu Caillaux. S'il n'avait donc démissionné en 1946, il n'aurait pas fallu attendre 12 ans pour que les idées exprimées à Bayeux, à Épinal, voient le jour, alors que De Gaulle, après les vicissitudes du RPF, s'enfermait dans la solitude à Colombey, que Debré faisait, comme il l'écrivit dans ses mémoires, le choix de la politique. Si nous sommes redevables au général de nos institutions, qui porte donc sa marque, c'est à Michel Debré que je voudrais rendre hommage en cet anniversaire. Certes, s'étant délibérément consacré, comme peu l'ont fait dans l'histoire, au service de la France et de l'intérêt général, ayant incarné successivement tant de personnages, on peut hésiter sur la forme de cet hommage. On pourrait parler du soldat fait prisonnier, de l'officier, du résistant. On pourrait parler du polémiste des années suivantes ou au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, exaspérant parfois il fut avant tout un précurseur. On pourrait parler du premier des premiers ministres de la Ve République, du ministre des Finances, des Affaires étrangères, de la Défense. Mais c'est le garde des Sceaux, le rédacteur de la Constitution que je veux saluer, voulant réunir aujourd'hui le légiste et le politique, en traitant d'une question volontairement provocatrice. Y a-t-il un paradoxe à saluer un grand parlementaire dans celui qui édifia nos institutions? Celui qui inventa le parlementarisme rationalisé peut-il avoir fait honneur au Parlement? À cette question, avec force, je vais répondre oui. Le titre 5 de la Constitution n'a pas été édifié contre le Parlement, mais au contraire pour lui rendre une grandeur perdue dans des combats dévoyés. Je rappellerai d'abord que Michel Debré était un parlementaire dans l'âme. Pour lui, le modèle constitutionnel était le Parlement de Westminster, à l'origine d'une stabilité ministérielle, alors que l'instabilité en France conduisait Debré à harceler sans merci, et parfois non sans injustice, les gouvernements de la IVe République. Dans son esprit, il n'était nullement question de renverser la République, seulement de la restaurer, en corrigeant ses déformations et en rétablissant l'équilibre des pouvoirs. On se souvient que pour atteindre ses objectifs, le rapporteur du comité interministériel qu'il était, entouré d'un groupe d'experts, tous membres du Conseil d'État, Michel Debré écartant des théoriciens, professeurs de droit, précisant à ses collaborateurs, je le cite, « Nous avons conduit à son terme non une œuvre de juriste, mais de légiste, de praticien qui, ayant choisi une noble cause, mettent leur connaissance à son service. » Le garde des Sceaux, nous le savons, mettra moins de 3 mois. C'est devant le Conseil d'État qu'il affirmera, en présentant son projet, vouloir faire du chef de l'État un représentant de la légitimité nationale, du Parlement l'organe délibérant d'une démocratie où il sera le garant des libertés, contrôlera l'action de l'exécutif, légiférera et ne gouvernera pas. C'est à la même époque que, de façon quelque peu intuitive, il rejettera toute idéologie anti-étatique, concentrée sur l'apologie de tout ce qui n'est pas stato-national, défendant envers et contre coup la souveraineté nationale. Certes, Michel Debré, au cours de l'élaboration de la Constitution, sera amené à transiger, même à abandonner quelques-unes de ses idées les plus chères, comme le principe majoritaire qui ne sera pas constitutionnalisé ou l'interdiction du cumul des mandats nationaux et locaux. Le texte adopté par 80% des suffrages exprimés, il était naturel que le général de Gaulle, président de la République, demande au rédacteur d'en inaugurer la pratique en le nommant Premier ministre. Lord de Matignon appliquera avec rigueur l'esprit et la lettre du texte. Il n'en sera pas moins parfois l'objet de reproches du chef de l'État. Ainsi, le général de Gaulle, lors de la fameuse querelle entre les articles 11 et 89, n'hésitera pas à dire à Debré, frisant quelque peu d'ailleurs la mauvaise foi, « C'est votre Constitution ». Le titre 5, des rapports entre le Parlement et le gouvernement, c'est bien le pilier essentiel de la nouvelle Constitution. On le doit à Michel Debré et à lui seul, là c'est bien le parlementaire qui s'exprime. Il y a d'abord l'article 34 qui encadre le domaine de la loi. Dans ses mémoires, Michel Debré n'hésite pas à voir dans cette disposition l'acte de naissance d'un parlementarisme de qualité. Il s'en est expliqué devant le Conseil d'État. Définir le domaine de la loi, ou plutôt du Parlement, ce n'est pas réduire la vie parlementaire. L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement, mais l'ordre du jour est maîtrisé par l'exécutif. Le nombre de commissions permanentes, vous le savez, est limité à 6. Il n'est plus question de ces commissions spécialisées qui harcelaient le gouvernement en défendant des intérêts souvent beaucoup trop particuliers. Le droit d'amendement fait l'objet des articles 44 et 45. Il s'agit d'une prérogative essentielle à laquelle il ne faut toucher que d'une main tremblante, encore que les parlementaires eux-mêmes doivent prendre conscience du danger de l'obstruction. La Constitution donne au gouvernement des moyens de coercition importants. Ainsi peut-il s'opposer, après l'ouverture du débat, à l'examen de tout amendement qui n'a pas été soumis antérieurement à la Commission. Peut-il demander à l'Assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion. Peut-il également faire examiner le texte selon la procédure d'urgence, utilisée, il est vrai, trop souvent aujourd'hui, et provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Enfin, l'article 49 lui permet d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Je ne saurais oublier, bien sûr, l'article 40. Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation d'une charge publique. Mais surtout l'article 47, qui impose que le budget ait lieu en temps voulu, règle de base pour la qualité des finances publiques, écrira Michel Debré. Tout cela forme un tout avec, je ne puis m'empêcher de le préciser, la mise en place du Conseil constitutionnel, auquel le garde des Sceaux de l'époque pensait depuis longtemps, et que le combat qu'il mena contre la CED le conforta dans sa détermination. Permettre à une institution de s'assurer que les lois sont conformes à la Constitution, mais également des traités. Cet ensemble remarquable et cohérent, il présente des similitudes avec le projet de Constitution élaboré par le Comité général d'études institué par le Comité national de la Résistance, avec bien sûr l'esprit du discours de Bayeux, mais surtout avec la volonté de Michel Debré. Mais quel but poursuivait-il ? S'agissait-il d'abaisser le Parlement ? La réponse bien différente, il l'apporta dans son discours du 27 août 58 devant le Conseil d'État. Je le cite, « Une première volonté a dominé le projet, refaire le régime parlementaire de la République. Le gouvernement a voulu rénover le régime parlementaire. Je serais même tenté de dire qu'il veut l'établir. Le but est bien de créer un régime parlementaire organisé, pour reprendre l'expression de l'auteur. Au Conseil constitutionnel, j'ai toujours porté en moi l'enseignement de Michel Debré. Comme je l'avais dit au chef de l'État en lui présentant les vœux de l'institution, je pensais à lui en faisant évoluer la jurisprudence dans un sens plus propice à l'élaboration d'une législation de qualité, bref, en faisant respecter les dispositions du titre 5. Il est vrai que le texte de 1958 n'est pas arrivé sans changement jusqu'à nous. Il y a eu la réforme de 1962, renforcement de la magistrature présidentielle par le suffrage universel. Si, disait le général de Gaulle à Bayeux, en 1946, le gouvernement doit être responsable devant le Parlement, c'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. Analysant cette importante réforme, envisageant les ambiguïtés du fait d'éventuelles cohabitations, Michel Debré insistera sur la souplesse de la Constitution qui pouvait donc avoir de lecture. En période de cohabitation, on pratique une lecture parlementaire de la loi fondamentale. Alors, le président de la République a un rôle d'arbitre essentiel. Lorsqu'il y a concordance entre la majorité présidentielle et parlementaire, on pratique une lecture présidentielle. C'est alors que le président détermine la politique de la nation au gouvernement de la conduire. Il y a eu la réforme de 1974 relative à la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Michel Debré l'a approuvée. Il est vrai, après bien des réserves et des hésitations. Ainsi écrivait-il, la réforme de 1974 accentue l'emprise des juges sur le gouvernement. Mais ajoutait-il, de cette évolution on peut se réjouir, encore que, et je puis personnellement en témoigner, pensait-il qu'à trop vouloir appréhender le régime politique par le prisme juridique et contentieux, et à s'extasier devant la politique saisie par le droit, on risquait à terme de voir tout simplement disparaître le politique. Enfin encore, il y eut d'autres réformes, comme la décentralisation par exemple, réforme incomplète, il y a en effet trop de collectivités territoriales, il y a eu le quinquennat suivi hélas d'un texte organique sur l'inversion du calendrier. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que vous avez voulu. Je ne vais pas vous dire ce que Michel Debré aurait pensé de cette nouvelle révision, je ne le sais pas. Mais le Congrès s'est prononcé. Sa décision s'impose et être critique ou sévère n'empêche pas d'être précis. Ni le Parlement, ni le gouvernement n'ont succombé à la tentation que Michel Debré stigmatisait en 1958. Pas de régime d'Assemblée, pas de régime présidentiel. Les articles 5 relatifs au président de la République et 20 relatifs au gouvernement n'ont pas été modifiés. Vous l'avez voulu ainsi, Monsieur le Président. Par cette réforme, et contrairement à ce qu'on a pu dire, Les pouvoirs du président de la République ont en réalité été réduits. Je l'ai récemment écrit. Il en est de même de ceux du gouvernement. Le seul bénéficiaire est le Parlement, encore. Et je n'hésite pas à le dire, ayant été député, faut-il que les parlementaires en prennent conscience, jouent leur rôle qui est de voter la loi et renoncent à cet absentéisme qu'ils justifient trop souvent par le cumul des mandats, exception française dont le rapport Balladur demandait la suppression. Par cette dernière révision, le domaine de la loi reste encadré fort heureusement. Les assemblées vont pouvoir voter, il est vrai, des résolutions, mais par ce biais, elles ne pourront mettre en cause la responsabilité du gouvernement ni lui adresser des injonctions. Le nouvel article 42 dispose que la discussion des projets et propositions de loi portera en séance sur le texte adopté par la Commission. Comme président de la Commission des lois, j'ai toujours souhaité une telle disposition, même si, et c'est sans doute la rare fois où je me suis opposé à Michel Debré. À l'article 43, le nombre des commissions sera porté à 8, mais il demeure limité. L'ordre du jour, vous l'avez voulu, sera désormais partagé conformément aux nouvelles règles de l'article 48 et l'engagement de la responsabilité du gouvernement prévu à l'article 49 est contingenté. Mais enfin, il y a des verrous. Figurent encore dans le texte constitutionnel des mécanismes susceptibles d'éviter des débordements et de maintenir à l'exécutif l'exercice de la responsabilité qui est la sienne. Beaucoup va dépendre maintenant des lois organiques et de ce que vont faire les assemblées de la réforme de leur règlement. Leur travail, il est vrai, est encadré par l'article 61 de la Constitution, sur lequel Michel Debré insista à la fin du tome 2 de ses mémoires dans les termes suivants. Une dernière précaution a été prise. Les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application seront soumis au Conseil constitutionnel, qui aura ainsi le pouvoir d'annuler les articles contraires à la loi fondamentale et à son esprit. Puisque j'ai parlé de l'article 61, on comprendrait difficilement que je ne dise pas un mot de la réforme apportée au Conseil constitutionnel par l'exception, donc par la saisine du justiciable. On sait que j'ai toujours été opposé, et sans doute n'ai-je pas été assez convaincant au sein du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, mais j'avais face à moi de nombreux théoriciens, professeurs de droit, tenant à cette réforme qui fait du Conseil non plus une institution, mais une juridiction. Je pense toujours en effet que l'introduction d'un contrôle a posteriori, contrôle des lois par voie incidente, est sans doute de nature à renforcer encore l'empire du droit et à favoriser l'utilisation procédurière de la Constitution. Là aussi, je ne saurais faire parler Michel Debré, encore que nous savons ce qu'il disait. Je le cite, « La politique vient d'abord, le droit ensuite au titre de moyen. Évitons toute démission du politique. » Michel Debré, bien plus qu'un juriste, était avant tout un légiste. Monsieur le Président de la République, la révision que vous avez souhaitée va se juger à son application, sans aucun doute de grande ampleur. Cette réforme ne change pas le régime républicain, il n'y a pas de rupture. Vous nous avez écarté des dangers d'une sixième république, toujours espérée par certains. Citant une dernière fois Michel Debré, je dirais aux hommes politiques désormais de faire bon usage de ces nouvelles dispositions. À eux, en effet, de maintenir cette cinquième république parlementaire à direction présidentielle. Aujourd'hui, en cette période anniversaire, je dirais volontiers, en rendant hommage à ce Colbert du XXe siècle, que l'ayant modestement servi, je serai toujours soucieux de suivre le mieux possible ce qui fut pour moi un enseignement. L'homme de conviction, qui a toujours vécu la politique comme une exigence nationale, morale et humaine, l'homme de passion qui considérait l'homme politique comme un intellectuel engagé, disait ici même, le 19 janvier 1989, ayant été élu à l'Académie française, que le service de l'État est la plus noble cause. Ainsi, son parallèle entre Richelieu et De Gaulle, entre le fondateur de l'État moderne et le restaurateur de la République, tous deux, dit-il, ont rendu aux Français confiance en la France en même temps qu'ils imposaient son respect au monde. Animé par une vertu majeure, l'honnêteté de la pensée, refusant les compromissions, c'est cette honnêteté intellectuelle qui a toujours justifié l'action de Michel Debré, qui a inspiré son espérance, quelles que soient les difficultés de l'action. C'est fort de cette vertu que Michel Debré forgea la Constitution de 58, l'appliqua et put alors la léguer à des générations. C'est une œuvre inscrite dans l'histoire de France, œuvre à laquelle, Monsieur le Président de la République, vous avez tenu à ce que soient apportées d'importantes modifications qui sont désormais entre les mains des hommes politiques. Je ne saurais terminer mon propos sans rappeler les liens entre Michel Debré et Jean Foyer. Tout au long de leur carrière, ils furent à l'unisson. Quant à moi, je perds un maître, un ami très cher. Je n'imaginais pas, en préparant ces quelques lignes, éloge que Jean Foyer m'avait demandé de faire, qu'il ne serait plus là pour nous parler à son tour. On comprendra donc mon immense tristesse.
Monsieur le Président, cette réforme constitutionnelle réalisée par la loi du 23 juillet 2008 vous reconnaît le droit de vous exprimer devant le Parlement réuni en congrès. Quelle normalité faut-il reconnaître à la possibilité maintenant, le 7 octobre, 3 jours après le cinquantenaire officiel, de pouvoir aujourd'hui vous donner la parole?
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, Monsieur le Président Jacques Chirac, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et si vous me le permettez, chers amis, ça n'est finalement engageant que pour moi. En 1852, Alexis de Tocqueville, alors président de l'Académie des sciences morales et politiques, s'exprimait ainsi devant vos illustres prédécesseurs. Il y a dans la politique deux parts qu'il ne faut pas confondre, la science politique et l'art de gouverner sont deux choses très distinctes. Exceller dans l'un n'est point une raison de réussir dans l'autre. Dans l'esprit de son auteur, cette observation était plutôt dirigée contre la prétention des auteurs de beaux livres à s'occuper du maniement des affaires. Mais peut-être faut-il voir dans cette mise en garde l'une des raisons qui explique qu'à ce jour, aucun président de la République en charge de l'art de gouverner ne se soit aventuré à venir exposer ses conceptions politiques devant votre Assemblée en charge de la science politique. Protecteur toutefois de chacune des 5 académies qui forment l'Institut, il était naturel qu'après le général de Gaulle devant l'Académie des sciences et François Mitterrand devant l'Académie française, un président de la République vint témoigner de l'attachement de la nation à votre Académie. Le 50e anniversaire de la Constitution de 1958 m'en fournit l'occasion. À ce seul titre, je suis heureux d'être parmi vous. Irremplaçable conseiller des pouvoirs publics, observateur attentif de la vie de la cité, tel est l'éloge que le président Jacques Chirac adressait à votre Assemblée à l'occasion du bicentenaire de l'Institut de France. Je veux à mon tour rendre hommage à votre Académie, la dernière née des 5, mais néanmoins illustre et particulièrement chère à tous ceux qui, comme moi, ont la passion de la vie politique et de l'action publique. La liste des membres célèbres de l'Académie des sciences morales et politiques, vivants ou disparus, est trop longue pour que je puisse les citer tous. Qu'il me soit dès lors permis de manifester la considération et le respect que je nourris pour votre Académie en évoquant rapidement la mémoire de quelques-uns d'entre eux dont les écrits ou l'exemple ont particulièrement compté dans la maturation de mon engagement politique. L'ayant déjà cité, je commencerai par mentionner Tocqueville. Nul ne s'étonnera que le président de la République voit dans son analyse absolument magistrale des continuités entre l'Ancien Régime et la Révolution une constante invitation à tenir compte des lignes de force et des structures profondes qui traversent notre pays et notre histoire depuis les temps les plus anciens. Pas davantage ne s'étonnera-t-on de m'entendre évoquer l'intérêt que je pris à la lecture de la démocratie en Amérique dans cette analyse absolument lumineuse des risques que fait courir à la liberté la soif de l'égalité, aux minorités l'oppression de la majorité et à la raison le poids de l'opinion commune. Je tirai alors des enseignants qui ont toujours guidé mon action politique l'importance du dialogue et de l'écoute, l'attention aux opinions minoritaires, le souci de convaincre par le raisonnement et par la démonstration. Chroniqueur trop imaginatif, historien trop partial, écrivain trop lyrique, Jules Michelet fut contesté de son vivant, comme d'ailleurs après sa mort, se défiant des opinions toutes faites, remontant toujours directement aux sources, recherchant constamment des archives inédites. Michelet fut toutefois le fondateur de l'histoire scientifique française, premier à voir la France comme une âme et comme une personne. Se faisant l'historien des foules, il concevait l'histoire comme la conquête de la liberté humaine sur la fatalité. Il a contribué à façonner notre roman national. Plus proche de nous, mais historien lui aussi et admirateur de Michelet, je veux évoquer la mémoire de Lucien Febvre, fondateur de l'école des annales avec Marc Bloch, ouvrant l'histoire à la prise en compte des mouvements profonds de l'économie, de la société, de la civilisation, mettant l'accent, comme on en a besoin aujourd'hui, sur le temps long. Les écrits de Brodel, Duby, Logoff, qui s'inscrivaient dans le sillon de Lucien Febvre, et plus tard la somme monumentale des lieux de mémoire dirigés par Pierre Nora, me passionnèrent. Les historiens des annales ont inscrit l'action politique dans un cadre plus global, l'obligeant sans doute à davantage de modestie, mais l'image du courage lui donnant également beaucoup plus de profondeur. De Raymond Aron, je garderai pour toujours le souvenir de la rigueur intellectuelle et de l'indépendance d'esprit, l'image de l'intellectuel isolé face à l'aveuglement collectif, l'image d'une réelle humilité. Il me faudrait citer encore chacun pour des raisons bien précises, René Cassin, Jacques Rueff qui a tant compté, Albert Schweitzer, Henri de Lubac, Bergson, et puis ce gaulliste historique, cher Pierre Mazeaud, que fut Pierre Messmer, dont la mémoire est chère à beaucoup d'entre vous. Mais c'est sans doute à Raymond Barre, madame, que je veux adresser un dernier hommage. Homme d'État, homme de conviction, homme de courage. Il dirigea le gouvernement de la France en des temps de graves difficultés économiques. Il ne céda jamais aux passions du moment, ni à la facilité. Le mot effort venait constamment à ses lèvres. Dans les cercles du pouvoir, on lui en fit parfois le reproche, mais il se l'adressait à lui-même autant qu'à nos compatriotes. Au moment de l'alternance, il laissa un pays éprouvé par une conjoncture internationale tourmentée, mais un État en ordre et des finances saines. Notre pays n'oublie pas ce qu'il doit à des serviteurs comme Raymond Barre. Telles sont donc les figures de votre prestigieuse académie qu'il me tenait à cœur d'évoquer devant vous, au cours d'un voyage forcément rapide et donc incomplet, dans le patrimoine intellectuel inestimable laissé par les membres de votre assemblée. Évidemment, il convient d'y associer Jean Foyer, disparu vendredi dernier, gaulliste, cher Jacques Chirac, parmi les plus fidèles et les plus éminents. Pas toujours facile à votre image, Pierre Mazeaud, mais combien utile à la réflexion. Et combien son exemple est-il utile pour nous qui sommes en charge tous des responsabilités politiques bien lourdes. La visite de Benoît XVI sous cette même coupole, il y a moins de 3 semaines, restera parmi ses dernières initiatives. Il ne put malheureusement y assister. Commissaire du gouvernement auprès du comité consultatif constitutionnel, il est juste qu'avant d'entreprendre une carrière politique, parlementaire et ministérieuse, prestigieuse et diversifiée, il contribua à l'élaboration de la Constitution de 1958. Cela vient d'être rappelé. C'est à Jean Foyer que l'on doit l'organisation de cette commémoration qui nous réunit aujourd'hui. L'évocation de sa mémoire me conduit donc naturellement à en venir au sujet pour lequel vous m'avez bien voulu m'inviter en ce lieu. À double titre, 2008 est une année exceptionnelle pour nos institutions. À la célébration du 50e anniversaire de la 5e République s'ajoute en effet la plus importante de ces révisions depuis 1962, sinon depuis 1958, si l'on en juge par le nombre d'articles concernés. Cette conjonction d'événements a donné lieu à de nombreux débats académiques et à des publications d'une très grande richesse intellectuelle. Historiens, constitutionnalistes, responsables politiques, chacun a apporté son point de vue. Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de pouvoir à mon tour exposer ma vision. Je vous en remercie, car je crois à la fécondité du dialogue. Il ne vous surprendra pas que j'aborde cet exercice par sa dimension politique. Commémorer le 50e anniversaire de la Constitution n'est pas dissociable de la célébration du retour au pouvoir du général de Gaulle et des circonstances de celui-ci. D'abord parce qu'avant d'en être le fondateur, le général de Gaulle avait conceptualisé cette nouvelle Constitution dans le fameux discours de Bayeux. Ensuite, parce qu'il était évidemment exclu à ses yeux de s'engager de nouveau au plus haut niveau de l'action publique sans avoir préalablement réuni les moyens constitutionnels de conduire la nation là où il pensait qu'il était de son devoir de la conduire. La Constitution de 1958, l'idée supérieure que de Gaulle avait de la France, son engagement total à la servir, sa conception exigeante de l'État et de l'action publique, son volontarisme politique, son souci constant de la modernisation du pays à la libération d'abord, avec le vote des femmes ou la sécurité sociale, sous la Ve République ensuite, avec la décolonisation, le nouveau franc, la dissuasion nucléaire, la réconciliation franco-allemande, la participation, tout cela, en vérité, ne fait qu'un. La ligne directrice est évidente, diaphane, c'est la grandeur de la France. Et pour cela, c'est la puissance de l'État au service de la modernisation du pays et du refus de la fatalité. Sur la place de la République, le 4 septembre 1958, présentant aux Français le projet de constitution soumis au référendum, le général était limpide. Écoutons-le. Nous vivons en un temps où des forces gigantesques sont en train de transformer le monde. Sous peine de devenir un peuple périmé et dédaigné, il nous faut, dans les domaines scientifiques, économiques, sociaux, évoluer. Évoluer rapidement. La nation française refleurira ou périra suivant que l'État aura ou n'aura pas assez de force, de constance, de prestige pour la conduire là où elle doit aller. Je livre à votre réflexion ces quelques phrases. Elles ont 50 ans, l'actualité reste la même. Et Michel Debré, connaisseur particulièrement éclairé de la Constitution de 1958, de préciser plus tard à la Sorbonne, en 1984, l'essentiel, c'est qu'il y ait dans le monde d'aujourd'hui, à la tête de la France, une aptitude à décider. Là est le legs fondamental de la pensée constitutionnelle du général de Gaulle. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Debré. Une aptitude à décider. C'est pourquoi, au-delà du texte lui-même et de ses principes fondateurs, la vraie fidélité à la Constitution de la Ve République et à la pensée de son fondateur, comme à celle de ceux qui l'accompagnèrent dans cette magnifique entreprise, Michel Debré, Malraux, Cassin, Georges Pompidou et tant d'autres, c'est l'action. Depuis 1958, c'est un fait. La France et le monde ont profondément changé. Ceux qui furent les témoins de ces événements, tout comme ceux qui en ont lu les récits et vu les archives documentaires, ne peuvent que mesurer la distance qui sépare notre époque de celle des événements de mai 58 sur les plans économiques, diplomatiques, sociaux, culturels, voire sociologiques. En 58, la télévision était en noir et blanc. Elle est aujourd'hui, on le sait, en couleur. Il n'y avait qu'une seule chaîne d'État au surplus. Il y en a aujourd'hui un nombre virtuellement infini. En 58, on s'informait dans les journaux. Aujourd'hui, on s'informe d'abord sur Internet ou à la télévision. En 58, le Parlement, le gouvernement, le comité consultatif constitutionnel ne comptaient quasiment que des hommes Les femmes, bien sûr, travaillaient, contrairement à cette opinion totalement erronée, bien que fort répandue, qui semble ignorer que les femmes ont toujours travaillé, à l'exception de celles qui avaient les moyens de ne pas le faire. Mais les femmes aspirent aujourd'hui aux mêmes responsabilités que les hommes. En présidant mercredi dernier la cérémonie du scellement de la loi constitutionnelle du 23 juillet, j'étais fier que l'article 1er de cette loi soit relatif à l'extension du principe de parité aux responsabilités sociales et professionnelles. En 58, 40% de la population vivait à la campagne. Les régions n'existaient pas. Les préfets qui dirigeaient l'exécutif des départements et il n'y avait pas de quartier sensible. C'était la France. En 58, l'ascenseur social fonctionnait. Le service militaire était obligatoire. 85% des électeurs votaient. La famille, l'école, la religion, les classes sociales structuraient la société. On vivait avec ses parents, on connaissait brièvement ses grands-parents. Aujourd'hui, 5 générations coexistent dans une même famille. En même temps, la société est éclatée, déstructurée, profondément individualiste. La communication est partout et la solitude aussi. En 58, le mur de Berlin n'était pas encore construit et donc pas encore détruit. La démocratie et le progrès étaient l'espoir des peuples opprimés et le ciment des sociétés libres. Aujourd'hui, on doute du progrès et la démocratie ne suffit plus à enchanter le monde. En 58, l'Europe naissait à peine et comprenait 6 pays. Elle en compte 27 et s'est considérablement approfondie. En 58, ce sont des crises politiques ou internationales soudaines et violentes qui menaçaient le pays. Aujourd'hui, les crises restent possibles, mais la France, comme le monde, peine surtout à se saisir des défis du vieillissement, de la mondialisation, du changement climatique, des dérives du capitalisme financier. Et puis, il faut noter depuis 58 cette évolution politique fondamentale que constitue le fait, Pierre Mazeaud, dont tu as parlé, majoritaire. Et effectivement, dans son discours devant le Conseil d'État, Michel Debré ne cachait pas le rôle du paysage électoral de l'époque sur les choix constitutionnels de 58. Il disait « Notre régime électoral nous empêche de connaître des majorités cohérentes qui assurent sans règle détaillée la bonne marche du régime parlementaire. Quelque désir que l'on ait d'une loi électorale neuve, nous savons trop bien que l'avenir sera fait longtemps encore de majorités menacées d'éclatement. En France, poursuivait-il, la stabilité gouvernementale ne peut résulter d'abord de la loi électorale, il faut donc qu'elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle et voilà qui donne au projet son explication décisive et sa justification historique. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. La loi électorale et la bipolarisation politique entraînées par l'élection présidentielle au suffrage universel à 2 tours ont créé les conditions de majorité parlementaire stable. Comment notre Constitution, aussi parfaite fut-elle en 1958, comment aurait-elle pu rester insensible à ces mouvements de fond qui ont traversé nos démocraties, nos sociétés, nos économies depuis 50 ans ? Dans ce monde où tout change, j'affirme qu'il eût été coupable. Et contraire à la pensée du général de Gaulle de ne pas s'interroger sur l'adéquation de nos institutions aux transformations du monde. Le général de Gaulle n'était pas un immobile. Il n'était pas un conservateur. J'ajoute que son dernier acte politique, le référendum d'avril 69, portait en lui-même un bouleversement des institutions de la République. De Gaulle lui-même le rappelait dans son discours de Bayeux. Reprenons à son compte les propos du sage Solon. Quelle est la meilleure constitution ? Et il répondait, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ? C'est De Gaulle qui parle ainsi. Quel peuple et quelle époque ? Et c'est parce qu'elle avait refusé d'évoluer que l'autre constitution durable de notre pays, celle de la Troisième République, fut incapable de résister à l'invasion de 1940. Ce fut pourtant, cher Pierre Mazeaud, une grande république, celle qui dota la France de ses grandes lois sociales et libérales, la liberté syndicale, la liberté de la presse, la liberté d'association, la laïcité, l'école obligatoire, publique et gratuite, la liberté communale, celle qui, la première, permis à la France de traverser une épreuve terrible, la Première Guerre mondiale, tout en restant démocrate et républicaine. Il m'arrive en ce 50e anniversaire de penser qu'on est bien sévère en faisant l'amalgame entre la Constitution de la Troisième République et celle de la Quatrième. D'ailleurs, à peine était-elle adoptée que de Gaulle lui-même procéda aux réformes de la Constitution de 58 que les circonstances commandaient à ses yeux. De Gaulle, qui avait porté la Constitution de 58, se pressa de la réformer lui-même en 1960. Il fit modifier les règles de la communauté pour permettre aux pays devenus indépendants de rester membres. Et en 1962, De Gaulle lui-même, l'inventeur de la Constitution de la Ve République, lui propose une sacrée réforme. Il tire les leçons de l'attentat du petit Clamart et donne au régime de la Ve une inflexion absolument fondamentale avec l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Voilà le général De Gaulle, 4 ans après avoir permis d'accoucher de son bébé constitutionnel, qui en propose une modification considérable. Quelle élection du président de la République au suffrage universel ? Ça ne date pas de 58, ça date de 1962. En 1963, il fit modifier les dates de session parlementaire. Et là, en 69, il voulut réformer rien moins que le Sénat et organiser le pays en région. Tous ses successeurs en firent autant, même si certains se heurtèrent à des obstacles politiques qui les empêchèrent d'aller jusqu'au bout. Georges Pompidou, dont vous avez été si proche, Monsieur le Président Chirac, s'interrogea le premier sur la contradiction entre l'intensité des pouvoirs présidentiels et leur durée, et il tenta de faire adopter le quinquennat. En 1974, avec la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires, Valéry Giscard d'Estaing engagea une révision dont les effets dépassèrent très largement ce qui était attendu. François Mitterrand échoua à étendre le champ d'application du référendum. Il échoua à créer l'exception d'inconstitutionnalité, à rééquilibrer les institutions de la Ve République au profit du Parlement. Il créa, en revanche, le cadre constitutionnel nécessaire à une intégration plus forte de l'Union européenne et permit la création de la Cour de justice de la République et la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Sous la présidence de Jacques Chirac, pas moins de 14 lois constitutionnelles furent adoptées, plus d'une par an, parmi lesquelles le quinquennat, que j'ai soutenu, l'organisation décentralisée de la République, le statut pénal du chef de l'État et la charte de l'environnement. Ce n'est pas parce que la loi... Je veux dire par là qu'en termes de réforme constitutionnelle, si je suis complice, nous sommes nombreux. Le fondateur lui-même. Et ce n'est pas parce que la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est la 24e révision de la Constitution de 1958 qu'elle est moins crédible, moins nécessaire, moins respectable que la première, la 5e ou la 10e. Ce qui compte, c'est l'adéquation de la réforme aux besoins de notre temps. Ayant été élu sur le fondement d'un programme placé sous le signe de la modernisation de notre pays, il était de mon devoir de poser la question de l'adaptation de nos institutions aux transformations du monde et de la société. C'était mon devoir. Et c'est pourquoi, peu de temps après mon élection, je procédais à la nomination de ce qui restera comme étant le comité Balladur. Vous étiez le vice-président, Monsieur le Président Mazot. À quel constat fondamental parvint ce comité pluraliste et composé de personnalités compétentes, différentes et hautement responsables, qu'à la faveur des évolutions successives de la Ve République, dont notamment le quinquennat et la mise en cohérence du calendrier électoral, nos institutions étaient devenues déséquilibrées du fait d'un exécutif trop peu encadré et d'un Parlement trop faible. Un exécutif trop peu encadré car sans bornes réelles sur l'administration, les nominations, la politique de défense, la politique étrangère, la politique européenne, le rythme et le contenu du travail parlementaire. Et un Parlement trop faible, assez d'hypocrisie, Tout le monde le sait, car sans réelle possibilité d'influer sur les choix du gouvernement, ni de s'opposer à lui, sans provoquer la crise. Ce constat, tous les observateurs, tous les responsables publics le partageaient depuis bien longtemps. Bien sûr, un exécutif fort est nécessaire pour gouverner, mais dans le monde complexe qui est devenu le nôtre, un pouvoir solitaire, c'est un pouvoir fragile. L'exécutif a besoin du législatif pour que le Parlement soit le lieu privilégié et reconnu du débat public. Le gouvernement a besoin des parlementaires pour que ses réformes soient mieux expliquées, mieux comprises, mieux concertées. Le peuple a besoin du Parlement pour se savoir représenté dans sa diversité. Il ne peut, le peuple, durablement tolérer un pouvoir exécutif sans limite dans lequel il ne se reconnaît plus. Et d'ailleurs, combien de gouvernements se sont satisfaits de victoires faciles obtenues devant une majorité docile pour voter un texte précipité qu'ils n'ont pas tardé à payer dans les semaines qui suivaient ce vote. Une loi votée à la suite d'un débat vif au Parlement, c'est une loi qui n'est pas contestée par la rue. Une loi votée par des artifices de procédure, avec une majorité trop disciplinée pour réfléchir, c'est une loi fragile au regard des conséquences sociales. Le pays a donc besoin que les pouvoirs exécutifs et législatifs s'équilibrent pour que chacun réponde devant l'autre de ses responsabilités avant d'en répondre devant le peuple. Et De Gaulle le disait, je veux un gouvernement fort et un Parlement fort. Personne n'a l'idée d'un président de la République élu au suffrage universel qui se demande tous les matins où il faut conduire le pays. Le déficit de responsabilité, telle est bien la principale faiblesse de nos institutions depuis tant d'années. Tel est bien le principal changement intervenu dans notre vie politique. Être responsable. Et assumer. Telle est bien l'origine de la confusion qui s'est développée dans l'esprit de nos concitoyens, qui est responsable personne. Aujourd'hui, il me semble que les choses sont plus claires. Et cette absence de responsabilité, c'est la cause première du rejet de la politique et donc de la montée phénoménale de l'abstention. Alors j'entends ceux qui affirment que la réforme du 23 juillet ne suffit pas à régler ce problème. Parce que c'est une question de mœurs beaucoup plus que de textes. Mais enfin, la réforme apporte des éléments de réponse, en limitant à 2 le nombre de mandats du président de la République. Eh bien, la loi constitutionnelle force le président de la République à agir plutôt qu'à durer. Tant il est vrai que l'énergie que l'on met à durer, c'est une énergie qu'on ne consacre pas à agir. Alors, j'entends bien les remarques sur le cumul des mandats. Permettez-moi, avec quelques malices, de vous dire que quelqu'un qui n'a rien à dire avec 2 mandats n'aura pas plus à dire avec 1. Ça fait tellement longtemps que je le pense. En instaurant un droit de veto du Parlement sur les nominations, peut-être imparfait, en tout cas je regarde ce qui s'est fait avant moi et je vois le progrès incontestable, eh bien on oblige l'exécutif à faire des choix fondés sur la compétence et sur la hauteur de vue. Et non pas sur l'allégeance. En prévoyant l'intervention du Parlement pour prolonger les opérations militaires extérieures, eh bien, on contraint l'exécutif à justifier de sa politique. Le débat qu'il y a eu sur l'Afghanistan, la présence française et le vote a renforcé la France, ne l'a pas affaiblie. Je le dis, la France est sortie grandie de ce débat digne et de ce vote sans ambiguïté. Enfin, en permettant au président de la République de s'exprimer devant le Congrès, eh bien, elle invite la Constitution, le président de la République, à rendre des comptes devant la représentation nationale. Quelle curieuse et singulière histoire! Voici que le Parlement français peut donc inviter à s'exprimer devant lui toutes les têtes couronnées du monde et tous les chefs d'État du monde, à l'exception du sien. Et voici donc un pays où le président de la République, élu au suffrage universel, peut donc s'exprimer devant tous les parlements du monde, à l'exception du sien. Et qui défendra cette idée curieuse qu'un président qui prend le temps de venir s'exprimer devant le Parlement affaiblit le Parlement? J'ai beaucoup de tristesse pour ceux qui pensent cela. De même, lorsque la Constitution donne aux deux assemblées du Parlement un pouvoir de résolution pour leur permettre d'exprimer un souhait, une préoccupation, elle responsabilise. Et je dis, Pierre Mazeaud, qu'avec ce pouvoir de résolution, on évite ce que vous avez si souvent, à juste titre, dénoncé, ces lois qui n'en sont pas, qui n'ont aucune dimension législative, qui sont simplement destinées à affirmer par le biais du législatif ce qui pourrait s'exprimer autrement avec le pouvoir de résolution. On débarrasse la loi de cette faiblesse. Et lorsque la Constitution nouvelle réduit le champ d'application de l'article 49.3, eh bien, elle oblige le Parlement à choisir entre le rejet ou l'approbation de la loi et à justifier de son choix devant le gouvernement comme devant l'opinion publique. Les enjeux sont transparents, les responsabilités sont clarifiées, l'abus du 49.3 était contraire à l'esprit de la Ve République. La Constitution issue de la réforme du 23 juillet, eh bien, je la crois fondamentalement plus équilibrée, plus adaptée à notre temps et, au fond, plus efficace. Je crois que cette réforme renforce l'esprit de responsabilité qui doit présider à toute organisation des pouvoirs publics. Je crois que cette réforme dynamise la vie politique, et notamment parlementaire. Comme moi-même, à l'époque, je désirais, Jacques Chirac s'en souvient, à l'époque, je désirais si ardemment participer au combat que menaient les grandes figures du gaullisme. Eh bien, je crois que cette réforme donnera de nouveau envie de s'engager dans la politique, parce qu'il y aura des débats, parce qu'il y aura des confrontations, parce qu'il y aura un vrai dialogue entre le Parlement et le gouvernement, parce que le Parlement aura le temps de faire des lois de meilleure qualité, parce qu'il aura les moyens de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Alors, il est une autre dimension de la réforme du 23 juillet 2008 sur laquelle je veux insister. Comme le texte initial de 58, la loi constitutionnelle du 23 juillet repose sur la théorie d'une séparation, comment dire, souple, des pouvoirs, organisant leur collaboration, précisant leurs responsabilités. Dans un contexte politique et social nouveau, elle est en ce sens fidèle à Montesquieu. Elle tient compte toutefois de l'enracinement du fait majoritaire, qui confie désormais que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif aux élus d'un même camp, et qui oblige à repenser la théorie de la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi la loi constitutionnelle a donné de nouveaux droits à des pouvoirs complémentaires qui contribuent aujourd'hui plus qu'autrefois, et sans doute de manière décisive, à l'équilibre des pouvoirs. Ces droits sont ceux du citoyen, avec l'exception d'inconstitutionnalité. Je dois confesser que j'ai beaucoup hésité. Jusqu'au dernier moment, fallait-il aller vers l'exception d'inconstitutionnalité ? Incontestablement, changer la nature du Conseil constitutionnel. J'ai fait ce choix-là parce que je considère que l'enracinement de la France dans l'Europe a des conséquences. Tous nos autres partenaires peuvent le faire. Et on se trouvait dans cette situation que les lois françaises pouvaient être contestées devant des juridictions européennes au nom de principes européens, ce que des citoyens ne pouvaient pas faire dans leur propre constitution. Curieuse conception des choses. J'ai tranché en faveur de l'exception d'inconstitutionnalité. J'en mesure les risques. Nous avons prévu des filtres, mais je crois que ça restera un progrès profondément républicain. J'ai également hésité, mais vous savez, quand on est président de la République et porteur et qu'on veut une telle réforme, les choses ne sont pas en noir et blanc, on réfléchit beaucoup. J'ai hésité également sur la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables. Et en même temps, je me suis dit, les magistrats, il en est ici, ont des grands pouvoirs. Peuvent-ils ne pas être responsables ? Peut-il y avoir un pouvoir sans responsabilité ? Doivent-ils eux aussi être exemplaires ? Et j'ai tranché dans ce sens-là. Le référendum d'initiative populaire et le défenseur des droits qui rassemble toutes ces institutions qui s'affaiblissaient quelque peu à défendre chacun de leur côté des droits et parts. Il y a des droits nouveaux pour l'opposition, qui se verra dotée prochainement, dans le cadre du nouveau règlement des assemblées, de prérogatives reconnues. Ce n'est pas qu'elle les a méritées. En refusant de voter une réforme qui n'était pas la réforme de la droite et de la gauche, c'était la réforme de tous, mais l'opposition doit avoir des droits reconnus. commission d'enquête, un statut. Nous devons faire de notre pays une démocratie civilisée. Et que la majorité l'ait compris avant l'opposition, bonne nouvelle. Je suis sûr que nous allons ainsi tirer l'opposition vers le haut. Après tout, c'est notre rôle aussi. Mais il ne faut pas les craindre. Ces droits sont ceux-ci du Conseil économique et social, qui va voir ses compétences élargies aux questions environnementales et dont la composition sera plus représentative. Pas de jeunes, 5 associations, pas d'ONG, pas de militaires. Bref, force vive de la nation, encore faut-il que les forces soient vraiment vives qui s'y trouvent. On est parfois un peu étonné. J'ajoute que la préoccupation environnementale est telle qu'on a bien fait qu'une des institutions de la République se spécialise aussi sur ces questions environnementales. Et puis ces droits sont ceux des médias, dont la liberté, le pluralisme, l'indépendance sont explicitement confiés à la seule intervention du législateur. L'autorité judiciaire, enfin, voit son indépendance renforcée. Alors là, je n'ai pas hésité. Avec la suppression de la présidence du Conseil supérieur de la République par le président de la République. Fantastique. Quand je suis devenu président de la République, on m'a dit « Ah, vous présidez le Conseil supérieur de la magistrature. » Mais mieux vaut ne rien dire. Et même, mieux vaut n'y aller qu'une fois par an, et en général dans la séance où il n'y a rien à entendre. Ce n'est pas ma conception du président de la République. Si le président de la République préside, il préside vraiment. Si on n'a pas besoin du président de la République, il n'a pas besoin d'être président. On affaiblit le président de la République et on affaiblit le Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, l'interdiction des grâces collectives. Mais dans quel pays vivait-on ? Qu'un an avant la prochaine élection présidentielle, plus personne ne payait sa contravention. Parce que la logique de l'élection, c'était la suppression des contraventions. Mais quel rapport ? Le tout, naturellement, au nom de l'indépendance de la magistrature et de la justice et de la République. La France, décidément, est marquée par ses siècles de royauté. Eh bien, c'est supprimé. Autant la grâce individuelle du président de la République peut avoir un sens pour défaire les nœuds d'un écheveau inextricable. Mais la grâce collective, au nom de quoi ? Monsieur, vous êtes élu par le peuple, vous avez le devoir de gouverner, pas d'amnistie collectivement, et tous les 14 juillet, ainsi, allons-y, 3 mois, 4 mois, 5 mois, oh ben écoutez, si c'est pour réguler la présence dans les prisons, on n'est pas obligé de modifier et d'en appeler à l'arbitrage suprême du président de la République, surtout pour lui dire après, ne vous mêlez pas de tout. Alors avons-nous, pour terminer, ce faisant, changer de République. Un débat fantastique. Peu importe le contenu, ce qui compte, c'est le numéro. Et j'en ai vu, hein, des artisans. La 6e. Et pourquoi pas la 7e. Et on continue. Mais ce débat n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que pour répondre à cette interrogation, avons-nous changé de République ? Il faut définir au préalable ce qu'est la 5e République. Elle n'est pas parlementaire et elle n'est pas présidentielle. Elle n'est même pas vraiment semi-présidentielle. Si l'on désigne sous ce label le régime qui prévaut en Irlande, au Portugal ou en Pologne, et dans tant d'autres pays encore, la Ve République, en vérité, elle ressemble à rien de comparable dans notre histoire constitutionnelle, ni même parmi les autres démocraties occidentales. Voilà qui devrait satisfaire l'esprit frondeur des Français. En fait, la Ve République, c'est un régime unique, original, qui repose sur quelques principes essentiels, un président de la République élu au suffrage universel direct, c'est toujours le cas, un exécutif à deux têtes, dont l'une coordonne l'action du gouvernement, mais seconde clairement l'autre, c'est toujours le cas, un gouvernement responsable devant le Parlement, il l'est encore, la stabilité gouvernementale, si déterminante pour les auteurs de la Constitution de 1958, je ne vois rien qui puisse l'affaiblir, la faculté pour le président d'en appeler directement au peuple en cas de blocage des institutions, c'est l'objet du référendum et du droit de dissolution, auquel nous n'avons rien changé. Le partage entre la loi et le règlement, il est conforté, puisque les présidents de chaque assemblée auront eux aussi désormais le pouvoir de le faire respecter. La maîtrise gouvernementale des lois financières, c'est toujours le cas. Une justice indépendante, un Conseil constitutionnel chargé de veiller à la prééminence de la Constitution. C'est plus que jamais la réalité. Ce régime fondamentalement caractérisé par un exécutif fort se dote désormais d'un Parlement également fort, un Parlement qui en soit un, comme disait le général de Gaulle à Épinal en 1946. Ce n'est pas incompatible, c'est au contraire complémentaire, c'est l'assurance d'un pouvoir plus équilibré, plus mesuré, plus responsable, plus adulte, dans une société plus diverse et plus complexe. C'est une organisation où toutes les institutions soutiennent la volonté politique et renforcent l'autorité de l'État. Et pour chaque renforcement des droits du Parlement, les dérives de la IVe République n'ont jamais été oubliées. La recherche du juste milieu a constamment guidé la plume des constituants. Ne pas affaiblir l'exécutif a été notre souci permanent. L'adosser à un Parlement plus responsable et plus fort a été notre priorité première. Pour rester la Ve République, la Ve République devait changer. Elle devait se moderniser, comme elle s'était modernisée déjà en 62, en 74, en 1995, en 2000. Elle devait regarder l'avenir plutôt que de rester tournée vers le passé. Comme il y en a tant qui confondent fidélité et nostalgie. Car, mesdames et messieurs les membres de l'Institut, au fond, l'enjeu fondamental de toute politique, la responsabilité première du pouvoir, l'essence même de l'art de gouverner, c'est de regarder vers l'avenir pour que la France reste grande et pour garder vivant ce que nous voulons préserver du passé. En matière institutionnelle comme en toute autre matière, ce n'est pas facile de se libérer des concepts anciens, des schémas hérités du passé. Ce n'est pas facile de penser les problèmes du temps présent en regardant vers l'avenir plutôt qu'en cherchant à recréer artificiellement le passé. C'est pourtant extrêmement nécessaire. Voilà pourquoi les gouvernements ont terriblement besoin de ceux qui réfléchissent, de ceux qui décryptent, de ceux qui déchiffrent l'avenir en éclaireurs, c'est-à-dire ni plus ni moins de penseurs comme vous l'êtes. Et telles sont donc les raisons pour lesquelles j'ai été très heureux de venir parmi vous aujourd'hui, m'imaginant l'espace d'un instant accueilli avec sympathie chez les penseurs. Merci à tous.
Canal Académie vous a proposé d'écouter la retransmission de la séance qui s'est déroulée sous la coupole le 7 octobre 2008 sous le patronage et en présence du président de la République Nicolas Sarkozy. Vous avez entendu successivement le juriste François Théret de l'Académie des sciences morales et politiques et Pierre Mazot, son confrère, membre de l'Académie et membre du Conseil constitutionnel, et le discours du président de la République.